L'Ennéagramme, mieux se connaître pour mieux s'aimer. Avec Cécile Flora Lefebvre et Justin Douillet.
Alors Cécile, on s'intéresse cette fois-ci au profil 1.
Oui.
Qui est dans le centre.
Instinctif.
Alors le profil 1, il aime être un modèle à suivre, il adore être exemplaire.
Ouais, c'est ça. En fait, le profil 1, c'est celui qu'on appelle le perfectionniste dans l'Ennéagramme ou aussi le moralisateur. Et c'est celui qui a la peur inconsciente d'être une personne mauvaise et immorale. Ce qui va le pousser constamment dans sa vie à s'améliorer, voire à virer perfectionniste dans pas mal de domaines de sa vie. Donc dans la base 1, il y a beaucoup de maîtrise de soi, on va parler de « il faut faire ça »,« je dois faire ça », c'est carré, il y a de hautes valeurs morales.
Il y a des enjeux quoi.
Ouais, il y a des enjeux quoi. Et on peut parler de justice, ce sont des gens très persévérants, des travaillomans, j'ai envie de vous dire, c'est l'employé modèle dans une entreprise, c'est aussi l'enfant qui est poli, qui se tient bien, qui fait ses devoirs et qui a compris « tu seras aimé ».
Sois parfait.
Si t'es parfait, c'est ça. Et donc il y a un espèce de moteur interne de « sois parfait ». Donc du coup, ça laisse peu de place pour la spontanéité et pour le lâcher prise. D'ailleurs, ça sera le travail de toute une vie d'arriver à lâcher prise, se détendre, revenir à de la sérénité, à du calme. Et justement, parce que le profil 1, à l'inverse du profil 7, quand on dit « c'est l'heure de l'apéro », le profil 1, il finit d'abord le dossier avant de partir s'amuser. C'est extrêmement important pour lui de « d'abord, on fait les choses qui doivent être faites pour avoir l'esprit libre, pour enfin s'amuser ». C'est chaque chose en son temps chez le profil 1.
Et tout ce qui est de l'ordre de la dernière minute ou je sais pas, un anniversaire surprise, etc., ça le déstabilise, ça ?
La majorité des profils 1 vont être un petit peu déstabilisés par la surprise parce que déjà, par rapport au côté, on va dire, émotionnel, ils n'aiment pas trop s'épancher en public ou pas savoir à quelle sauce ils vont être mangés, quoi. Donc, un anniversaire surprise, on va dire, à part si un 1 est vraiment dans le lâcher prise parce que, on va dire, il a un petit peu travaillé sur lui, il est dans le lâcher prise, il peut apprendre à vraiment se marrer. Ça peut être un très bon vivant, ça peut être quelqu'un d'extrêmement sympa quand il a compris que c'est bon, il est juste là pour s'amuser et que les autres gèrent. Par contre, s'il est dans les organisateurs de l'anniversaire surprise, il va mettre un grand enjeu à ce que ça se passe bien, quoi. C'est-à-dire que la cagnotte, elle soit faite à temps, etc. Et il va y avoir tout un tas de choses, on va dire, à faire, mais qui sont importantes. Et donc, ça peut être celui qui peut être un peu tatillon sur les bords. Mais ce qu'il faut voir, c'est que souvent, vous allez dire « Ah, mais il est tatillon, mais il peut être un petit peu un peu dur ou un peu « Oh là là, c'est comme ça qu'on fait et pas autrement » parce qu'il y a la bonne manière de faire. » Mais il faut vraiment que vous imaginiez que dans la tête d'un 1, derrière, il y a la bonne intention, il y a une très bonne intention.
C'est d'être parfait, enfin que ça se passe parfaitement, quoi.
Il est animé par le fait de vous améliorer et de vous montrer comment les choses pourraient être. Et donc, il y a une super bonne intention derrière, sauf que des fois, c'est un petit peu maladroit. C'est souvent celui qui communique sur le mode de la leçon. Et d'ailleurs, on en retrouve pas mal chez les maîtresses d'école, chez les profs, chez les juristes, chez les avocats. Donc, parce qu'il y a cette appétence pour justement, on va dire, la loi, les règles, les principes, les hautes valeurs morales.
Il ne supporte pas l'injustice.
Ah bah, il a énormément de mal avec l'injustice. C'est typiquement, moi en entreprise, j'en ai vu pas mal de dire, bah oui, mais si on accorde ça à telle personne, du coup, c'est pas juste par rapport aux autres, quoi, une espèce d'égalité. Et il y a, chez le profil 1, alors si par exemple vous connaissez la série Desperate Housewives, Brie Van de Kamp en est un très bon exemple, déjà juste sur son visage, où vous voyez une espèce de colère latente ou une frustration qui reste coincée
dans les mâchoires
serrées. C'est là que va aller se loger l'agacement chez le profil 1, quand les gens se moquent un peu des règles, quand les gens sont juste moyens ou par exemple, moi j'avais une profil 1 qui travaillait avec moi, elle était dingue de voir que je pouvais poser ma tasse à café sur ma pile de dossiers et laisser une trace de café. Et je voyais que ça l'agaçait, elle ne le disait pas et ça se crispe, quoi. Il y a une espèce de...
Alors, profil 1 et 3, ça se ressemble quand même.
Oui, alors en fait, le profil 1 et le profil 3 de l'Ennéagramme ont en commun ce moteur interne du soi parfait. C'est aussi deux personnes qui vont beaucoup travailler. Et une fois que le projet est fini, hop, relancer sur un nouveau projet. Mais pour des raisons différentes. Le 3, c'est parce qu'on est dans une compétition, dans le challenge. Le 1, c'est parce qu'il veut toujours mieux faire et donc il a une valeur travail très très importante. Et encore une fois, là, je parle d'un 1 qui n'aurait pas encore travaillé sur lui, parce que bien sûr qu'il y a des 1 dans le monde, vous n'allez même pas forcément reconnaître, parce qu'ils sont dans la légèreté, ils sont dans le fun. Ils ont appris à se lâcher la grappe et à comprendre que l'amusement, la légèreté, ça faisait aussi partie de la vie et du jeu.
Alors Cécile, dans les mots-clés employés par les personnes de base 1, qu'est-ce qu'on peut retrouver ?
Valeurs.
Comment on peut les identifier ? Des valeurs, alors.
Valeurs. Ah oui, le mot valeur.
L'injustice, tu disais tout à l'heure.
Oui, alors la justice, ce qui est juste, ce qui est sacré, ce qui est bon, ce qui est pur, ce qu'il faut faire, il faut, on doit. Et puis, ça peut être parfois, alors quand le profil est un petit peu en régression, quelqu'un qui communique sur le mode des reproches et qui va dire « Ah, t'as ramené un 18, mais ils sont où les deux points qui manquent ?» Et donc, axé sur...
C'est jamais assez, quoi.
Ouais, l'amélioration.
Très bien. Alors, dans cette série de podcasts, vous le savez, on a pour habitude d'inviter et d'accueillir des intervenants, des personnes de la base en question. C'est Louis qui nous rejoint. Bonjour, Louis.
Bonjour, Louis.
Bonjour.
Alors, première question pour toi. Qu'est-ce que t'a apporté la découverte de l'Ennéagramme et de ton profil?
Oui. Alors, pour moi, la découverte de l'Ennéagramme 1, c'était un peu une révélation. Pour toutes les raisons qu'a évoquées Cécile, moi, ça m'a frappé comme une évidence. Le côté perfectionniste, le côté à vouloir améliorer les choses en permanence, c'est quelque chose de très marqué chez moi. Et je n'avais pas conscience que c'était aussi marqué. Et surtout que c'était pas aussi marqué chez les autres que ça ne l'était chez moi. Ça peut être une sacrée prise de conscience. Et donc, la découverte du profil 1 m'a vraiment aidé à évoluer, à être plus en phase avec moi-même et plus serein dans la vie.
Et du coup, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment tu vivais ta personnalité avant de découvrir l'Ennéagramme?
Ah oui, ça c'est une question intéressante. Je pense que, comme un profil 1 pourrait vous dire, je me percevais pas forcément comme un perfectionniste. C'est-à-dire que j'aimais bien faire les choses bien, ou plutôt, en tout cas, je supportais pas du tout de les faire mal. Ça, c'était un vrai problème. Et donc, ce qui était vraiment important pour moi, c'était de ne pas, qu'on ne puisse pas me faire de reproches sur la qualité de mon travail, qu'on ne puisse pas me faire de reproches sur le fait que j'ai mal fait les choses, que j'ai pas été à la hauteur, etc. D'ailleurs, c'était une source de stress par le passé assez importante. Je pense que j'ai été assez marqué par une phrase de mon père quand j'étais plus jeune qui était si tu veux faire les choses, fais-les bien, sinon ne les fais pas. Voilà. Et ça, je pense que ça résume tout à fait la mentalité de l'esprit 1. Donc moi, je me percevais un peu comme ça, avec de grandes tendances à culpabiliser. On pourrait parler de la petite voix du 1 qui lui dit qu'il est pas bien. Et ça, c'est quelque chose que je vivais déjà avant de découvrir l'Ennéagramme 1 assez fortement. Je pouvais être un peu rigide de mon travail. Par exemple, j'avais besoin de parfaitement comprendre le sens des consignes quand j'étais dans l'enfance. Sinon, j'étais incapable de faire la tâche parce que c'était pas clair. Je pouvais ne pas faire les choses parfaitement. Et si je pouvais pas les faire parfaitement, j'avais du mal à me lancer et ça amenait à ce que je fasse pas grand chose. Donc c'était un vrai problème à l'école quand les consignes étaient écrit par des profils moins rigoureux que les profils 1, on va dire. donc il y a ça. La même manière mes parents me disaient, je suis en train de skier sur une grande piste de ski, et imaginons il y a un poteau au milieu de la piste de ski, eh bien, tout le monde passerait autour du poteau, mais moi, je me le prendrais. Ça, c'était un truc très, très... très, très ancré dans la rigidité du 1, la non-flexibilité, la non-adaptation, on va dire. Cependant, sur le côté positif, mes amis me disaient aussi que j'avais un côté assez solide, juste et droit dans mes bottes, donc il n'y a pas que du négatif. Hein, donc c'est quand même ça à retenir. Et puis, plutôt mon rapport aux autres, moi j'ai toujours bien aimé être aidé et être utile, et partager les manières que j'avais de trouver de m'améliorer avec les gens qui m'entourent. Donc, par exemple, moi je repense au lycée avec... les mathématiques ou les disciplines dans lesquelles j'étais plutôt bon. Et donc, je sais que après un examen, par exemple, j'ai des amis qui arrivaient qui disaient « Oh mon Dieu, mais comment t'as fait pour faire ça ?» etc. Et là, j'étais très très enjoué à l'idée de partager avec eux toutes les astuces que j'avais trouvées pour devenir meilleur. Et en fait, c'était perçu comme une manière de crâner par les autres, alors que moi, en tant que moi, je comprenais absolument pas comment ça pouvait être mal perçu. J'étais justement en train d'aider les gens à s'en sortir mieux. Et donc... Donc il y a eu une grande séparation entre ma perception de moi et la perception que les autres avaient de moi par rapport à ça. Voilà.
Eh ben,
donc, ça c'était assez marrant.
Merci beaucoup, c'est très touchant parce que là on touche le cœur de à quoi sert la découverte et la connaissance de soi. C'est la perception que j'ai de moi parce que je connais l'intention qui sous-tend mon comportement et comment perçoivent les autres mon comportement. C'est-à-dire que voilà, bah, les autres le perçoivent comme étant arrogant ou présomptueux, là où moi en fait j'ai l'intention de partager les bonnes méthodes pour que eux aussi s'améliorent. Et c'est génial de voir la confrontation des interprétations de chacun, parce que c'est exactement ça, les problèmes de communication, c'est vraiment dû aux interprétations. Donc merci pour ce partage. À un moment donné, tu as parlé de la petite voix, c'est vrai que c'est excessivement important d'en parler dans la base 1 parce que en psychologie on appelle ça le surmoi. C'est cette petite voix interne qui dit au 1 c'est bien, c'est pas bien, c'est attention là ce que tu fais c'est immoral, c'est pas correct. Et ça en fait on sous-estime parce qu'on vit pas tous dans la peau d'un 1 et on sous-estime à quel point ça peut vraiment façonner ses croyances, ses perceptions, ses comportements. Et c'est pour ça que si vous avez une critique à faire à un type 1, faites-le vraiment avec des gants, avec beaucoup de bienveillance, parce que vous n'avez pas idée à quel point il est déjà très autocritique, très dur avec lui-même. Et c'est pour ça qu'on dit souvent les 1 en fait, supportent mal la critique, mais c'est parce qu'ils en ont déjà une saturation à l'intérieur d'eux. Donc merci pour cette histoire de la petite voix. Et la deuxième chose que tu as dite, c'était, tu as parlé des qualités du profil 1, il y en a une qui n'a pas été mentionnée, et je pense que c'est un mot hyper clé, c'est l'honnêteté. Et l'intégrité, ça c'est les deux mots, si vous prenez des notes, c'est vraiment les deux mots qui caractérisent la base 1. Donc merci Louis pour cette réponse, et du coup j'ai envie de te poser la question suivante. Qu'est-ce que ça a fait évoluer de positif de découvrir ta personnalité et tes ressources?
Je vais te répondre sur deux axes. Déjà ça m'a aidé dans ma compréhension des autres, et ça m'a aidé dans ma compréhension de moi. Donc j'ai commencé par la compréhension des autres. Moi je trouve que en découvrant ma propre base, ça m'a permis de comprendre comment les autres, qui ne sont pas de ma base, fonctionnent, ce qui était déjà, comme je disais, une grande révélation. Et donc, ça m'a permis une plus grande ouverture d'esprit, je pense une plus grande tolérance et un lâcher-prise, comme tu disais quand tu présentais le profil. Et ça m'a permis aussi de mieux gérer la communication dans mes relations et plus particulièrement dans mes relations de couple. Les moments où vous voyez les égos viennent buter dans une relation, c'est le moment où l'énéagramme 1 m'a permis vraiment de comprendre en fait pourquoi est-ce que mon égo venait rentrer en jeu et pourquoi est-ce que l'égo de l'autre venait rentrer en jeu quand moi j'avais un comportement qui me paraissait normal, etc., etc. Et du coup de pouvoir communiquer là-dessus et résoudre ces conflits de manière saine avec mon partenaire. Et pour la compréhension de moi, du coup ça m'a permis une plus grande acceptation de qui je suis, de comment je fonctionne, etc. Et ça m'a permis aussi de gagner en flexibilité, en amusement. Je pense enfin à la régulation de la colère, parce que la colère, c'est un truc qui peut être assez présent chez l'humain quand il est moins développé. Et donc, ça m'a permis de vachement comprendre quand je me sens en colère. Souvent, le profil 1, il a ce truc de intérioriser la colère sous forme de tension dans le cou, dans les trapèzes, une forme de rigidité un peu extrême, et en fait se rendre compte que quand j'ai cette rigidité qui prend place dans mon corps, c'est souvent un signe qu'il y a de la colère qui se construit, du ressentiment, et qu'il faut trouver une manière de l'évacuer, soit de manière saine avec le sport, soit via une communication en essayant de ne pas exploser en disant à l'autre que ce qui s'est passé en l'occurrence, c'était pas agréable, etc. Plutôt que d'avoir le comportement réflexe du 1 qui est intégré parce que une bonne personne ne se mettrait pas en colère, voyons. Voilà. Donc voilà.
Alors Louis, une autre question pour toi, qu'est-ce que tu sens que l'énéagramme peut apporter dans ta vie future?
Bien écoute, moi je dirais être plus à l'écoute des autres en connaissant pas seulement mon énéagramme à moi, mais en connaissant l'énéagramme des autres, ça permet de mieux comprendre en fait comment ils fonctionnent, et ça permet aussi d'être plus juste. C'est-à-dire, je sens déjà que j'apprends à juger les autres plus selon leurs standards, plus selon leur profil, plutôt que selon les standards de mon profil. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez agréable, parce que ça fait de moi une personne qui est plus lisse et plus souple, et plus bienveillante aussi. Et puis, ça permet aussi de communiquer plus facilement les trucs qui me tiennent à cœur dans ma base Enneagram avec les autres. À savoir, si tout le monde n'est pas autant intéressé par améliorer et perfectionner, par contre, tout le monde est intéressé par le fait que, en général, je trouve que les humains sont bienveillants, ils comprennent bien quand je dis, bah, écoute, moi j'ai envie d'améliorer ça parce que je trouve que ça vaut le coup, que c'est quelque chose qui me paraît suffisamment intéressant et juste pour que ça vaille le coup qu'on s'embête à essayer d'améliorer. Est-ce que ça te dit d'essayer de m'aider à améliorer ça? Ça, en général, les gens comprennent beaucoup plus et même se sentent beaucoup plus heureux de participer à ce genre de démarche. Donc ça, c'est deux grands intérêts de l'énéagramme pour moi. Et puis enfin, comme je disais, garder une forme d'équilibre dans ma vie, une meilleure communication active avec ma compagne et de la sérénité au quotidien.
Parce que c'est vrai que souvent on dit que le perfectionniste qui a évolué, qui est à son top, il accepte le monde tel qu'il est, il crée la perfection dans ce qui est pour lui porteur de sens et il sait se détendre et apprécier la vie. Ça devient un vrai idéaliste inspirant. Dernière question, pour quelle raison tu conseillerais à ceux qui nous écoutent de découvrir leur profil Enneagramme?
Oui, bah écoute, moi je dirais Cécile pour ça, que pour toutes celles et ceux qui ne sont pas en paix forcément avec eux-mêmes, pour ceux qui régulièrement n'arrivent pas à comprendre le fonctionnement des autres, et enfin, ou pour celles et ceux qui voudraient apprendre à mieux gérer les conflits dans leurs relations, je trouve que l'Enneagramme, c'est vraiment un outil très riche qui peut débloquer de nombreuses situations. Bon, ça reste un outil, donc il s'appliquera probablement pas à tous les problèmes, mais dans les problèmes que j'ai évoqués ici, s'il y en a certains qui résonnent avec vous, et bien franchement, jetez-y un œil, vous serez peut-être agréablement surpris.
Merci beaucoup, Louis.
Merci, 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 merci.
De rien.
Cécile, quelles sont les personnalités connues du profil 1?
Bah, comme je l'ai évoqué, il y a Brie Van de Kamp. Alors, j'aime beaucoup ce personnage de série parce que déjà, physiquement, je trouve que dans son jeu d'actrice, on voit vraiment ce qui se passe dans la mâchoire et l'agacement, la frustration qu'on peut sentir chez les 1, comme ça, qui cœur dans la mâchoire chez ce personnage-là. Ensuite, on a Margaret Thatcher, qui est suffisamment connu. On a Cousteau. On a aussi Gandhi dans les personnages de base 1, aussi surprenant que ça puisse paraître. Donc voilà. Et puis du coup, que serait le monde sans les profils 1? Bah déjà, je pense, on n'aurait pas le code de la route. Ça serait super embêtant. Non, en fait, les profils 1 sont la conscience éthique du monde et sans elles, le monde pourrait se laisser aller et perdre son âme.
Retrouvez les autres épisodes du podcast L'Ennéagramme, mieux se connaître pour mieux s'aimer sur rtlpodcast.be. Et pour en apprendre davantage sur la connaissance de soi, retrouvez Cécile Flora sur cecileflora.com.